Le journal Régis Meria.
Bonjour, l'arrivée du chemin de fer en 1874, une révolution dans la région. La revue Intervalle consacre son numéro 129 au train en présentant un ouvrage intitulé 150 ans des chemins de fer dans le Jura bernois. La forêt, un milieu naturel mais aussi un lieu de loisirs et une ressource économique. Un paradoxe exploré par la réalisatrice neuchâteloise Oran Bury dans son nouveau documentaire Inestimable forêt. Météo, quelques résidus nuageux sont encore à prévoir en début de matinée, sinon pour la suite ce sera le retour à un temps estival. Les températures seront du même tonneau avec un mercure qui grimpera jusqu'à 24 degrés sur la région. Les chemins de fer circulent dans le Jura bernois depuis maintenant 150 ans. La revue Intervalle a décidé de consacrer son dernier numéro, le 129, à ce propos. C'est Francis Dedvider qui s'est chargé de l'écrire. L'Imérien a notamment été vice-président du conseil d'administration des chemins de fer du Jura. Et même en étant un fin connaisseur, Francis Dedvider a été surpris par l'évolution de la compagnie du chemin de fer du Jura bernois. On l'écoute.
Ce dont j'étais peut-être moins conscient, c'est la manière dont cette compagnie s'est étendue dans l'ancien canton. Elle a même, à l'époque, exploité la ligne du Bödeli, qui est une ligne qui reliait Bönigen à Derligen, du côté d'Interlaken, et qui était séparée du reste du réseau suisse. Et puis ensuite, cette compagnie s'est étendue en direction de Lucerne et est devenue le Jura-Berne-Lucerne. Je rappelle que le président du conseil d'administration était Ernest Francillon de Saint-Imier. Et puis ensuite, il y a une fusion. Les fusions existaient déjà au XIXe siècle avec le Suisse occidental Saint-Plon. Et c'est devenu le plus grand réseau privé d'avant les CFF, le Jura Saint-Plon.
Notez encore que vous retrouvez Francis Dedvider plus longuement dans la matinale aux alentours de 8h20. Les travaux sur la 16 entre Levrest et Sonsbeau ont pris du retard et les automobilistes devront s'armer de patience. Le chantier qui aurait dû se terminer le 25 juillet a été ajourné à fin septembre. En cause, les pluies trop abondantes et les températures trop fraîches du début d'été qui ont empêché la pose de la couche de roulement. Dans l'intervalle, l'Office fédéral des routes admet que des changements incessants de règles de trafic sur ce tronçon puissent perturber les utilisateurs. La maison au bord de l'eau de Corteberg veut s'ouvrir au monde extérieur. La discrète institution pour personnes en situation de handicap est en voie de renouvellement. Après 22 ans à la tête de la communauté et également de l'association fêtière Cicada, Fritz Steffen, le fondateur, fait place à une nouvelle génération. Deux co-directrices se partageront désormais la tâche, Jeannette Floury et Audrey Quartenou. Dans une nouvelle visée, Audrey Quartenou explique leur projet de tisser des liens avec le village de Corteberg.
Déjà de faire connaître, de participer un petit peu à l'ouverture d'esprit des gens, de la différence, de ce qui peut être fait autrement, d'une différente vision, je dirais, des gens qui vivent d'autres choses que le tout en commun, je ne sais pas comment dire. Oui.
Qu'est-ce qui est différent ici d'un appartement protégé, entre guillemets ?
Il y a des soins qui sont offerts et puis on a également des ateliers occupationnels. C'est des gens qui ne sont pas à l'âge de la retraite, c'est des gens qui travaillent, qui ont une activité, hein. On travaille beaucoup le bois, on travaille la laine, on a également des animaux, donc il y a le travail à l'écurie, ce genre de choses.
La maison au bord de l'eau qui sera d'ailleurs ouverte au public pour sa fête annuelle ce samedi à Corteberg de 11h à 17h avec des animations dans le jardin. Le canton vient de libérer 1 700 000 francs pour soutenir la modernisation du funiculaire Gleres-Prel. Notez qu'il s'agit d'un prêt remboursable sans intérêt. Les travaux prévoient le remplacement du système de guidage et de traction vieux de 20 ans. Des panneaux solaires seront aussi installés à la station de Prel. Le gros du chantier aura lieu entre l'automne et l'hiver 2025. Le marché concours bovin prévu demain à Delémont est annulé. C'est ce qu'indiquent les organisateurs dans un communiqué publié hier soir en urgence. En cause, la présence du virus de la langue bleue dans plusieurs élevages régionaux exposants. La 32e édition du Chant du Gros a démarré hier soir au Noirmont sous la pluie. Une météo humide mais qui n'a pas entamé l'enthousiasme des festivaliers venus en nombre. Écoutez par exemple Francis Cabrel, Claudio Capeo ou encore Sims. Si vous n'avez pas encore pu obtenir de billets, bien notez que vous pouvez toujours vivre le Chant du Gros par l'intermédiaire de votre radio puisque RJB sera en direct du festival cet après-midi à partir de 16h. Des pâturages francs montagnards, on passe à la forêt, un milieu naturel, mais aussi un lieu de loisirs, une ressource économique. Un paradoxe qui est au cœur du film Inestimable forêt. Dans son nouveau documentaire, la réalisatrice neuchâteloise Oran Bury s'intéresse à la manière dont nos forêts sont d'une certaine manière piégées par les définitions étroites de notre système économique. On leur réclame davantage qu'elles ne peuvent nous offrir et au final, c'est la nature et l'humain qui en ressortent perdants. Oran Bury.
Il ne faut pas oublier que sans forêt, sans nature, il n'y a pas d'économie. Donc, il y a un moment donné, il faut peut-être remettre les choses dans le bon ordre. Après, c'est complexe. On vit dans un monde globalisé, complexe. Mais il y a des choses qui peuvent être faites. Voilà. Par exemple, simplement de se dire, mais en fait, ma banque, où est-ce qu'elle investit l'argent de mon deuxième pilier? Qui est-ce qui s'en occupe? Où est-ce que ça va? Comment c'est géré? Et en fait, en creusant, on réalise que pas mal de projets sont très néfastes en fait, pour les forêts du monde, parce que ce qui se passe dans les forêts ailleurs, ça nous retombe dessus forcément à un moment donné ou à un autre via le dérèglement climatique.
À noter qu'une première projection du film Inestimable Forêt a eu lieu hier soir au cinématographe à Tramelan. Le film sera encore projeté mardi 10 septembre à 19h30 à Delémont en présence de la réalisatrice. Il sera ensuite distribué en salle un peu partout en Suisse romande. La Confédération devra économiser en 2027 et les années suivantes au moins 3 milliards de francs pour équilibrer ses comptes. La ministre Karine Keller-Souter a demandé à un groupe de 5 experts de faire des propositions. Le groupe d'experts a présenté son rapport jeudi à Berne. Il a retenu 60 domaines où des économies sont possibles pour 5 milliards par an en 2030. Tous les domaines ou presque sont concernés, mais pas l'armée. Les plus visés, l'asile, la politique climatique, les crèches ou la contribution de la Confédération à l'AVS. Une part importante des économie repose sur un transfert de charges vers les cantons qui s'offusquent. Le président du groupe d'experts, l'ancien directeur de l'administration fédérale des finances, Serge Gaillard.
Nous avons veillé à ce que les cantons, là où nous on économise, ils ont aussi des marges de manœuvre pour économiser. Certaines propositions soulagent même les cantons aussi financièrement. Mais c'est clair, ils perdent un peu de l'argent parce que la Confédération, qui redistribue tellement d'argent aux cantons, ne peut pas économiser sans que les cantons soient touchés.
Des propos recueillis par Serge Hubin. En sport, mauvaise semaine pour le HC Bienne. À moins de 2 semaines de la reprise du championnat de National League de hockey sur glace, le club ceylandais sera privé de son attaquant Jere Salinen pour les 6 prochaines semaines. Le joueur finlandais souffre d'une fracture aux côtes. Il s'est blessé mardi soir lors du match de préparation face au HC Ajoie. La course pédestre Villeray-Chasserelle-Villeray se déroulera demain sur les versants du massif du Jura. Pour sa 24e édition, l'organisation s'est alliée avec les trails du Jura bernois et de 7 lieux à la Neuville pour former le Grand Chasserelle Trail Series. Un championnat de trail qui vise à attirer un nouveau genre de coureurs dans la région. Un article complet et le programme de cet événement sont à retrouver sur notre site ajour.ch. Un retour aux affaires rageant pour l'équipe de Suisse de football. Elle s'est inclinée 2-0 hier soir contre le Danemark à Copenhague à l'occasion de la première journée de la Ligue des Nations. Après une première mi-temps plutôt équilibrée qui s'est soldée sur un score de parité 0-0, tout s'est précipité au retour du thé. Notre envoyé spécial à Copenhague, Michel Léoni.
La rencontre a basculé quelques minutes seulement après le coup d'envoi de la deuxième mi-temps. Nico Elvedi est à la lutte avec un Danois. L'attaquant nordique semble faire faute, mais l'arbitre ne bronche pas. Le défenseur et l'attaquant tombent alors au sol et l'arbitre siffle pénalty en faveur des Danois, puis distribue un carton jaune à Elvedi. L'homme en noir va ensuite visionner la vidéo et revient sur sa décision pour donner un coup franc et expulser le défenseur helvétique. Mais on n'avait pas encore tout vu. À moins de 10 minutes du coup de sifflet final, Brelembolo reste au sol après un duel. Les Danois ne sortent pas la balle et continuent à jouer sans aucun fair play. C'est sur cette action que les Nordiques ouvrent le score dans un angle fermé, rageant et très dur à avaler pour les hommes de Murat Yakin.
Le manque de fair play des Danois a totalement sorti le capitaine helvétique de ses gonds. Granit Xhaka s'en est pris aux joueurs nordiques et à l'arbitre. Foudrage, le milieu de terrain de Leverkusen a vu rouge et a laissé ses partenaires finir le match à 9 contre 11. Granit Xhaka ne digérait pas le manque de fair play des Danois.
Je crois que je me suis calmé ces dernières années, mais je reste un homme avec des émotions qui peuvent surgir à tout moment et surtout quand il y a de l'injustice. En football, le mot respect est capital et ce que les Danois ont montré aujourd'hui n'a absolument rien de respectueux. Nous, nous avons été exemplaires en première mi-temps en sortant le ballon quand un de leurs joueurs était blessé. Eux ne l'ont pas fait, ont continué à jouer et même marqué alors qu'un des nôtres était au sol et qu'on était déjà à 10. C'est dommage qu'on doive encore parler de respect en 2024.
S'il s'en est pris avec vigueur au comportement des Danois, Granit Xhaka est bien conscient que son comportement n'est pas digne de celui du capitaine de l'équipe de Suisse.
Je suis bien conscient que ça ne devait pas arriver, mais il y a malheureusement des moments où on se perd dans ses émotions. Ça me fait du mal à moi, ça fait aussi du tort à l'équipe et ça ne devait pas se produire. Mais maintenant, c'est fait et il faut regarder vers l'avant.
Des propos recueillis et traduits par notre envoyé spécial à Copenhague, Michel Léoni. La Suisse rentre aujourd'hui à la maison et défiera l'Espagne dimanche à Genève dans son deuxième match de cette Ligue des Nations, sans Granit Xhaka qui sera donc suspendu. Les Espagnols ont concédé le nul 0-0 en Serbie hier soir. Voilà qui marque la fin de ces informations. Excellente suite de matinée sur RJB.